Je n'ignore pas la haine et l'envie de votre cœur. Vous n'êtes pas assez grand pour ne pas connaître la haine et l'envie. Soyez donc assez grand pour ne pas en avoir honte. Et si vous ne pouvez pas être les saints de la connaissance, soyez-en du moins les guerriers. Les guerriers de la connaissance sont les compagnons et les précurseurs de cette sainteté. Je vois beaucoup de soldats. Puissais-je voir beaucoup de guerriers. On appelle uniforme ce qu'ils portent. Que ce qu'ils cachent dessous ne soit pas uniforme. Vous devez être de ceux dont l'œil cherche toujours un ennemi, votre ennemi. Et chez quelques-uns d'entre vous, il y a de la haine à première vue. Vous devez chercher votre ennemi et faire votre guerre, une guerre pour vos pensées. Et si votre pensée succombe, votre loyauté doit néanmoins crier victoire. Vous devez chercher votre ennemi et faire votre guerre, une guerre pour vos pensées. Et si votre pensée succombe, votre loyauté doit néanmoins crier victoire. Vous devez aimer la paix comme un moyen de guerre nouvelle, et la courte paix plus que la longue. Je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Je ne vous conseille pas la paix, mais la victoire. Que votre travail soit une lutte. Que votre paix soit une victoire. On ne peut se taire et rester tranquille que lorsque l'on a des flèches et un arc. Autrement, on bavarde et on se dispute. Que votre paix soit une victoire. Vous dites que c'est la bonne cause qui sanctifie même la guerre. Je vous dis, c'est la bonne guerre qui sanctifie toute cause.
Georges Bataille, que faut-il penser de cet extrait de Zarathoustra ? Pour Frédéric Nietzsche, qu'est-ce que la guerre ?
La guerre peut être considérée de deux points de vue. Pour bien des gens, la guerre est une politique. Et une politique brutale et violente. Mais, par exemple, pour Clausewitz, n'est-ce pas ? La guerre prolonge la politique de la paix. C'est-à-dire que la guerre a un but tout à fait précis, qui est en somme d'imposer sa volonté aux gens que l'on combat, aux gens que l'on qualifie d'ennemis. Mais la guerre a été quelquefois autre chose. Dans des conditions primitives, la guerre n'avait même aucun sens matériel. La guerre était simplement une sorte d'exercice et d'exercice un peu d'une allure nettement tragique, ce qui réserve le sens de ce que je voudrais dire. La guerre a d'abord été un jeu. Et c'est, je crois, en tant que jeu que Nietzsche la valorise. Seulement, il faut entendre les choses. Il faut apercevoir quelle sorte de jeu est la guerre. La guerre est un jeu suprême, la guerre est un jeu tragique. C'est un jeu dans lequel on met sur le tapis vert absolument tout ce que l'on a, tout ce que l'on a, sa vie compris. Et je crois que c'est ce que Nietzsche a aimé dans la guerre, parce que pour Nietzsche, essentiellement, la vie était un jeu. Nietzsche a dû certainement apercevoir qu'il n'était pas de jeu supérieur à la guerre, puisque c'était le seul dans lequel l'enjeu était total. Alors que dans tous les autres jeux, il est évident qu'on peut mettre sur le tapis bien des choses, mais pas tout.
Lorsque vous me dites, ce que je suis prêt à admettre, qu'il faut entendre la guerre comme un jeu supérieur qui met la vie en cause lorsque l'on parle de Nietzsche, est-ce que cette notion de jeu que vous venez d'introduire à propos de la guerre, est-ce que cette notion de jeu, je vais pouvoir l'introduire davantage dans l'œuvre de Nietzsche ?
Je crois que c'est ce qui éclaire en général sa position. Sa position serait vraiment très difficile à comprendre si l'on n'apercevait pas à quel point toutes choses qui se sont reflétées dans sa pensée se sont reflétées alors qu'il s'en jouait. Nietzsche n'est pas un philosophe, mais je crois qu'il y a pour cela une seule raison. C'est que la philosophie n'a pas pu être atteinte par Nietzsche non pas parce qu'il n'avait pas la force de l'atteindre, mais parce que la philosophie n'était pas ouverte à lui en tant qu'il voulait jouer. Nietzsche n'a peut-être pas renoncé tout à fait à la philosophie, mais il est certain qu'il a préféré à la possibilité de devenir un philosophe, il a préféré s'adonner à une écriture qui lui permettait continuellement de se jouer de ce qu'il écrivait. Nietzsche n'a jamais regardé ce qu'il écrivait avec une hauteur quelconque. Et je dois dire que là-dessus, il y a beaucoup à dire, et de très précis. Par exemple, dans le Zarathoustra, il a eu le souci d'écrire avec une certaine hauteur, avec quelque chose qui lui permette de regarder les choses de très haut. Eh bien, on peut dire que jusqu'à un certain point, il a échoué. Il a échoué, mais peut-être aussi peu que possible inconsciemment. Je vous demanderai la permission de citer quelques phrases du Zarathoustra. En vérité, c'est une bénédiction et une malédiction que d'enseigner, sur toute chose, se trouve le ciel hasard, le ciel innocence, le ciel à peu près, le ciel témérité. Par hasard, c'est là la plus ancienne noblesse du monde, je l'ai rendue à toute chose, je les ai délivrés de la servitude du but. Vous voyez, n'est-ce pas, il s'agit essentiellement de délivrer les choses, c'est-à-dire l'existence et le monde, du but. Et Nietzsche est toujours dans le même sens. Il proteste contre l'assignation d'un but aux choses, l'assignation d'un but au monde. Pour lui, le monde n'a pas de but, et par conséquent, qu'est-ce qu'il nous reste possible, c'est de rire de ce qu'il est. Mais non pas de rire, comme il est banal de rire, en s'apercevant d'une supériorité que l'on a sur celui dont on rit, mais de rire d'un rire... C'est le contraire. De rire d'un rire définitif, de rire... On ne peut pas rire du monde comme d'une réalité par rapport à laquelle on se sent supérieur, mais d'une réalité devant laquelle, au contraire, on sent sa petitesse, et par conséquent, le rire, dans les conditions nietzschéennes, est un rire tragique. Il n'y a aucune possibilité de rire à partir de la connaissance de Nietzsche sans aller jusqu'au bout des possibilités du rire. C'est-à-dire de rire tragiquement, de rire comme on rirait devant un crucifix.